La question que je me suis posée dès hier matin n'était pas tellement celle de savoir s'il fallait modifier le culte prévu, le culte classique, mais était de savoir ce que nous pouvions dire face à ces événements en tant que croyants et en tant que communauté croyante, et surtout en tant que communauté croyante. Je voudrais le redire, parce qu'on ne le dira jamais assez, qu'avant toute chose, notre compassion va aux familles des victimes, aux blessés, à celles et ceux qui sont choqués. Notre compassion et notre admiration va aussi, comme ça a été magnifiquement dit dans la prière, à nos forces de l'ordre, à nos soldats, à nos magistrats, à toutes celles et ceux pour qui travailler, c'est être au service de la nation et de sa population, à nos médecins aussi, bien sûr. Nous avons donc tous une idée, frères et sœurs, sur ce qui nous est arrivé, mais nous ressentons, au-delà de nos opinions personnelles, nous ressentons la nécessité, le besoin, d'essayer de trouver une expression commune, à la fois à notre douleur, à nos espérances, à nos combats et à notre résistance. Et c'est cette expression commune que je vais essayer d'avoir pour nous, du haut cette chair. Notre foi ne peut pas et ne peut plus se contenter de lieux communs, de formules vides et de pensées qui font rire nos ennemis. En janvier, devant l'émotion et l'élan populaire suite aux attentats qui ont touché Charlie Hebdo, j'ai dit personnellement et solennellement aux politiques qui m'ont interrogé que je n'avais pas l'intention d'aller de Charlie en Charlie et que je ne passerais pas mon temps à aller montrer mes larmes dans des manifestations publiques en côtoyant je ne sais qui. Je reconnais que les manifestations suite aux événements du 7 janvier étaient nécessaires et que sous le coup de l'émotion, elles ont eu ce que nous appelons une fonction cathartique pour de nombreuses personnes qui ne savaient pas comment exprimer leur horreur et leur peine face aux événements de Charlie Hebdo. Mais après. Or, nous sommes passés dans l'après, avec ce qui vient de se passer. D'ailleurs, il suffit de voir, même si des rassemblements existent, à quel point la société française est en train de réagir différemment à ces événements qu'à ceux du 7 janvier. Une parole commune pour nous signifie déjà de prendre en compte que nous ne sommes pas, vous et moi, des politiques. Nous ne sommes pas des décideurs. Nous ne sommes même pas des faiseurs d'opinion. Et c'est en tenant compte de cela, de ce que nous sommes réellement, que dans cette nuit qui est tombée sur notre pays, mais sur le monde en général, et nuit qui nous menace depuis bien longtemps maintenant, dans cette nuit, je ne vois qu'un seul chemin. C'est celui d'être bien conscient, plus que jamais, de ce qu'est notre foi chrétienne et de ce à quoi elle nous engage. Et je crois que, sans avoir peur des mots, il nous faut affirmer que être chrétien aujourd'hui, c'est adhérer, militer et se battre pour un choix de civilisation. Le christianisme n'a rien à voir avec la dogmatique. Il n'a rien à voir avec le religieux en général, il est un choix de civilisation, une attestation de la vision que nous avons de l'homme, des sociétés et de l'histoire. Et dans ce choix de civilisation, eh bien, les piliers de cette civilisation ne sont pas négociables. Il n'y a rien à négocier. Il faut que la foi chrétienne retrouve son élan, civilisateur, non pas en allant évangéliser les peuples lointains, comme elle l'a fait, plus ou moins bien, mais plus ou moins bien, pas plus mal que ça non plus. Il faut que la foi chrétienne retrouve son élan civilisateur, qu'elle sorte des chapelles, des sacristies, des langages convenus, des lieux communs et des formules. Il est temps de dépoussiérer sérieusement les temples et les églises. Il est temps que la foi chrétienne dise sans honte qu'elle est une idée de l'homme et un projet de société, et que cette idée de l'homme et ce projet de société, contrairement à ce que l'on essaie de nous faire dire depuis plusieurs décennies maintenant, ne se retrouve pas systématiquement dans d'autres confessions religieuses ou dans d'autres mouvements philosophiques. Ce projet de société, frères et sœurs, il a pris une forme dans l'histoire. Il était tellement fort qu'il a pris forme dans l'histoire, et qu'on le veuille ou non, cela s'appelle l'Occident. Et que cet Occident, nous ne sommes pas prêts à le laisser aux barbares. Non seulement il est temps pour nous d'assumer, mais aussi de magnifier notre héritage. C'est le seul chemin que j'entrevois. Les politiques ont des choses à faire. Les militaires font des choses. Les faiseurs d'opinion continuent aussi à nous mener en bateau le plus souvent. Mais nous, ce qu'il nous faut faire, c'est attester et magnifier à quel point nous sommes attachés à cette utopie de la foi chrétienne qui s'est incarnée dans l'histoire en donnant naissance à l'Occident. Cet Occident, nous ne devons pas le magnifier dans ses réussites ou ses gloires matérielles. On sait très bien qu'elles passent vite et qu'elles ne sont pas toujours au service de l'homme, et notamment des plus petits. Sic passem gloria mundi, disaient les anciens. Mais il y a une chose qui ne passe pas. Il y a une chose qui est au cœur de notre culture et de l'Occident. Et je voudrais simplement en rappeler les grandes étapes extrêmement succinctement. Ce qui ne passera jamais, c'est saint Augustin. Ce sont les confessions. C'est la cité céleste. Cette synthèse en un seul homme des Grecs et des Romains qui fait que l'on peut légitimement voir en lui le père spirituel de l'Occident. Ce qui ne passera jamais, c'est cet élan incroyable qui a donné dans toute l'Europe le temps des cathédrales, cette aspiration à la transcendance, à la foi, là encore, à la cité de Dieu. Ce qui ne doit pas passer, qui ne doit pas être oublié, c'est le temps de la réforme et des réformes, et de ces exigences critiques envers le religieux et envers l'Église. Ce qui ne doit pas passer, c'est cette sortie de l'obscurantisme qu'a été le siècle des Lumières. Et il est bien évident que même s'il parfois il nous agace, nous sommes du côté de Voltaire, de Montesquieu, de Diderot, et que ça aussi, nous ne le laisserons jamais aux barbares, parce qu'ils n'ont rien à nous proposer en face. Quoi qu'en disent certains intellectuels qui rabâchent toujours la même chose, ils n'ont rien face à l'esprit des lois, face à l'encyclopédie, face à Jean-Jacques Rousseau, face à Voltaire et ses exigences de justice. Ils n'ont rien à nous proposer en face. Voilà, frères et sœurs, ce qu'est notre combat. Voilà ce à quoi il faut nous raccrocher, et voilà ce qui, de mon point de vue, peut être notre discours collectif face à ce qui nous arrive, en n'étant, je le répète, ni au pouvoir, ni des politiques, ou que sais-je encore. N'ayons pas peur de reconnaître nos erreurs, de confesser nos péchés, mais de grâce. Réapprenons ensemble, dimanche après dimanche, ici ou ailleurs, réapprenons ensemble à nous aimer. Il faut en finir avec la haine de l'Occident, surtout avec cette haine à l'intérieur de l'Occident, qui fait que, depuis des décennies, on s'amuse sur la rive gauche comme sur la rive droite, mais toujours entre gens protégés, à déconstruire tout ce qui a fait la grandeur de l'Occident et de notre nation. Nous devons aussi récuser avec fermeté toutes les singeries que l'on voudrait nous faire faire, particulièrement à nous, les gens d'Église et les croyants. Et je voudrais, sans choquer personne, dire ce que je pense de la manipulation du dialogue interreligieux. On nous demande de discuter avec on ne sait qui. On nous demande de ne jamais aborder les sujets qui fâchent. On nous demande de poser pour les photos dans les journaux et de nous donner bonne conscience sous prétexte qu'une photo pourrait se transformer en tolérance. Il n'est plus question de tomber dans ces singeries et je l'ai dit à Jean Rottner le 8 janvier. Il n'est plus question de tomber dans ces singeries et il n'est pas question d'adhérer à cette idée absolument insupportable qui consiste à dire que les religions auraient comme rôle de dire ce qu'est le vivre ensemble. Eh bien non, les religions n'ont pas pour rôle de dire ce qu'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la République qui le décrète. C'est la République qui le dicte. Ce ne sont pas les religieux. Je ne veux pas vivre dans un pays protestant, je ne veux pas vivre dans un pays catholique, je ne veux pas d'une société islamique, je veux vivre dans l'espace républicain. Point final. Et là encore, il n'y a rien de négociable dans l'espace républicain. Pas même d'ailleurs par ouverture d'esprit, par charité ou par tolérance. Je le répète, les religieux n'ont rien à dire sur le vivre ensemble, l'espace public et l'espace de la République. Je voudrais maintenant, pour terminer, et non sans émotion, vous parler de cette chose que l'on a déconstruite, détricotée sous nos yeux, et qui fait que dans la peine, dans cette obscurité dont je parlais, nous avons encore plus de mal à voir la lumière. Je voudrais vous parler enfin de la nation. Oui, il serait temps que l'on reparle de la nation et que on ne la laisse pas aux extrémistes de tout poil. Il serait temps que nous reparlions de la nation et que nous en reparlions avec cette émotion qui fait nous rappeler qu'elle est née au pied du moulin de Valmy. En 1792, et que là, au pied de ce moulin, c'est une idée neuve qui était en train de naître. Et que cette idée neuve, elle a été défendue par des hommes que les impeccables armées du duc de Brunswick appelaient des gueux, des gens en sabots, très peu armés, très peu militaires au sens professionnel du mot, et qui ne se battaient pas pour la première fois simplement pour défendre leur lopin de terre ou leur arrière-boutique d'une ville de province, mais qui se battaient pour ce qui allait étonner toute l'Europe et devenir une idée universelle, la nation. La nation en tant qu'espérance, en tant que groupe, en tant que bloc. Cette idée qui est née à Valmy, il nous faut, frères et sœurs, en reparler et l'avoir toujours présent dans nos esprits et au cœur. Et vous savez que cette nation s'est forgée autour du plus beau triptyque possible. Liberté, égalité et fraternité. Certes, ce triptyque ne sera adopté par la République qu'en 1848, mais en 1790, il avait déjà été prononcé devant l'Assemblée par Robespierre en personne. Ce triptyque est certainement le plus beau. Il est quand même incroyable qu'on soit obligé de se demander s'il faut qu'il brille à nouveau au fronton de toutes nos écoles républicaines. Où sommes-nous tombés? Mais si ce triptyque est le plus beau, il est aussi la porte d'entrée dans la République. Une triple porte, ce qui signifie, frères et sœurs, que ceux qui ont de drôles d'idées sur l'égalité, ceux qui pensent que les femmes ne sont pas l'égale de l'homme, ceux qui pensent qu'on devrait les voiler un petit peu ou beaucoup, tous ceux pour qui l'égalité n'est pas l'égalité totale, n'ont rien à faire dans l'espace républicain. Il en est de même pour cette égalité, cette liberté aussi, tous ceux qui trouvent que la liberté d'expression, la liberté de vivre sa vie comme on l'entend, devrait tomber sous le coup de dogmes ou d'oukases ou de traditions qui enferment les hommes et les femmes et les empêchent d'exprimer cette liberté, eh bien toutes celles et ceux qui partagent cette drôle d'idée de la liberté n'ont pas à rentrer dans cette belle République. Quant à la fraternité, il est vrai que contrairement à l'égalité, que contrairement à la liberté, ça ne s'organise pas et que le droit n'y peut pas grand-chose. Mais ceux qui ne ressentent pas au fond de leur humanité ce besoin de fraternité envers tout être humain, eh bien là aussi, ils ne font pas partie de ce que l'on appelle la nation française. Et ce qu'il y a de nouveau maintenant pour nous et ce qui a changé, c'est que nous sommes appelés à ne rien lâcher de cet héritage et à en être les témoins au nom de notre foi chrétienne. C'est terminé. Nous n'irons pas de Charlie en Charlie, de 13 novembre en 13 novembre. Nous sommes entrés dans une période où notre foi chrétienne prend tout son sens. Elle aurait toujours dû l'avoir, mais nous nous sommes beaucoup endormis et nous nous sommes laissés endormis. Faisons bloc avec nos gouvernants. Ne ressortons pas tout de suite des querelles gauloises. Faisons bloc avec celles et ceux qui ont souffert dans leur chair. Pensons un peu à nos militaires, à nos policiers, et relevons la tête. Et puisqu'il faut une allure martiale, parce que le temps est à l'allure martiale, gardons notre calme, en avant et droit, comme on dit à l'école de cavalerie de Saumur. Amen.